Cindy Duperval, vous écoutez Les Beaux Sons avec Nathalie Di Palma sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Bonsoir, vous la connaissez sans doute comme DJ et auteure-compositrice-interprète. Elle est impliquée dans la lutte contre la lesbophobie. On va parler de son parcours et de son premier EP en français, Ad Vitam, qui est sorti à l'automne 2021. Elle est déjà venue nous voir en studio il y a plusieurs années. C'est un réel plaisir de la retrouver ce soir. Bonsoir Cindy Duperval et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir, merci beaucoup.
On va commencer par le début. Tu es née à Montréal, dans le quartier Saint-Michel.
Oui.
Tu es très proche de la communauté haïtienne et tu as commencé à chanter très jeune, presque en même temps que tu as appris à marcher.
Oui.
Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance en lien avec la musique?
Je pense que honnêtement, la musique, ça a été la fondation de ma vie. La musique, c'est ce qui nous a gardés heureux, c'est ce qui nous a gardés connectés, c'est ce qui nous a permis d'exprimer aussi nos sentiments. Tu sais, j'ai quand même grandi dans un milieu super religieux, donc on allait à l'église comme 4 fois ou 5 fois par semaine. Puis j'étais enfant unique, donc ça me permettait de connecter avec les gens, de me faire des amis, de rencontrer des gens avec la même passion. Mais surtout, tu sais, j'avais l'impression quand je commençais que c'était vraiment pour avoir l'attention de mes parents. J'ai pas grandi avec eux, donc je me disais, ben un jour je vais tellement être bonne que je vais faire Star Search, puis ils vont venir comme me voir, puis je vais pouvoir retourner avec eux. Donc ça a été vraiment la fondation de ma vie au fond.
Grand public t'a connu à Star Academy en 2004. Et depuis, tu n'étais plus permise de faire paraître de la musique en tant qu'auteur, compositrice, interprète jusqu'à aujourd'hui avec ce magnifique EP Ad Vitam. Comment as-tu vécu l'expérience Star Academy?
Honnêtement, je pense que ça a été comme un manège. Parce qu'au début, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Tu sais, on le voit à la télévision. Quand on regarde ça, on a une perception de l'émission. Quand on le vit, c'est quelque chose de complètement différent. J'avais comme 20 ans, puis j'étais vraiment vierge, comme on dit. Je suis rentrée là, j'étais en musique à Sherbrooke. Puis je suis rentrée directement à Star Academy. Puis ça a tellement changé ma vie de façon intense que j'ai eu des moments fort et des moments vraiment difficiles parce que justement c'était la première fois que j'étais exposée à l'industrie de la musique à cette échelle, puis j'étais pas prête mentalement, émotionnellement, même physiquement, c'était assez demandant. J'ai arrêté de faire de la musique après, puis ensuite j'ai rencontré des gens qui ont fait de la musique à une échelle différente. Puis tranquillement, pas vite, surtout avec ma carrière de DJ, j'ai commencé à vraiment apprécier l'arrière-scène, de comprendre. Tu sais, il y a une différence qu'on peut prendre le temps de faire les choses, puis qu'on est vraiment jeté dans la gueule du loup. Puis j'avais vraiment l'impression de pas avoir eu cette maturité-là pour absorber l'expérience de la façon que je l'ai faite après avec ma carrière. Puis j'ai été en dépression pendant 7 ans. Ça a été des hauts, des bas. Puis je dis souvent que si c'était pas de ma carrière de DJ, j'aurais pas continué en musique. Parce que, tu sais, l'industrie, honnêtement, c'est pas que du mauvais. Mais avant de voir le bon, ça prend du temps. Avant de trouver des gens en qui on peut avoir confiance, ça prend du temps. Donc, l'expérience a vraiment changé mon image de l'industrie. Je me suis dit, tu sais, c'est plus assez de se plaindre puis de dire, ben là, c'est trop difficile puis juste des requins. Moi, je me suis donné comme mission, aujourd'hui, avec une maison de disques, de, justement, comment on peut faire changer les choses? Comment on peut permettre à l'artiste de demeurer un artiste passionné et donner des outils pour passer à travers les moments qui sont plus difficiles. Parce qu'on s'entend que dès qu'on est exposé, on devient vulnérable à la critique. On devient vraiment une proie facile. Puis pourtant, on a tellement beaucoup à offrir. Donc, j'essaie aujourd'hui, quand je travaille avec d'autres artistes, de leur dire, tu sais, c'est pas juste du beau, mais ça vaut la peine. Donc aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de l'avoir fait, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Je sais qu'il t'est arrivé quelque chose pendant cette expérience-là. Il y a quelqu'un qui t'a hâté pendant que tu étais à Star Academy?
Oui, puis moi, on s'entend que dans le temps, j'étais encore très chanteuse gospel, très couverte par ma grand-mère. T'sais, j'avais une certaine image, puis surtout à l'émission, c'est ce qu'on a vendu, comme on dit. Puis la petite fille chanteuse gospel, entourée par la communauté religieuse. Puis là, j'étais confrontée à ma sexualité. Puis je me rappelle, j'ai été mise en danger. Puis tu sais, ce que j'ai apprécié, c'est que oui, il y avait des gens à travers la production qui étaient assez honnêtes pour me dire, ben écoute, il y a des difficultés, il y a des défis. Puis tu sais, je l'ai su que justement, le fait que j'avais été outée, comment tu fais pour vendre ça? Moi, j'étais pas encore prête à faire mon coming out. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut précipiter. Puis en même temps, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Parce que j'aime les gens qui m'entourent. T'sais, j'aime ma grand-mère, je veux pas la décevoir. Puis moi aussi, il faut que je fasse le travail. Je pense que le plus difficile, c'était comme, je pourrais pas passer ma vie à faire semblant.
Ça a dû être très stressant pour toi.
Oui, oui, oui. Puis même si par la suite, j'ai pas fait mon coming out, c'est sûr que là, ça a été les moments les plus comme j'ai le dos au mur, je sais pas quoi faire, je sais pas où trouver des ressources, je sais pas à qui me confier. Puis c'est là que j'ai commencé à fréquenter, comme je me rappelle quand j'ai commencé au Unity, j'avais pas encore fait mon coming out. Quand les gens me posaient des questions, je pense qu'au pire, je disais que j'étais bi, mais même là, j'étais pas confortable. Mm-hmm. Puis c'est vraiment en fréquentant des gens qui avaient passé à travers le processus. Dans le temps, je travaillais avec le Festival Diversité, puis ensuite avec Fierté Montréal. Tranquillement, j'ai commencé à trouver des repères. Hmm. Mais ça a pris du temps.
Ta grand-mère a émigré au Québec en 67.
Oui.
Puis elle a été très importante dans ton évolution et très encourageante aussi avec toi. Tu as vraiment beaucoup étudié la musique grâce à ta grand-mère. Elle a réagi comment? Est-ce que c'est venu à ses oreilles, cette histoire-là?
Oh oui, mais tu sais, nos parents, je pense qu'ils nous connaissent plus que nous-mêmes des fois. C'est sûr qu'il y a eu des moments où on en a parlé. Quand j'ai commencé à travailler au Café européen, j'ai commencé à tranquillement essayer de construire une relation avec ma mère. J'ai habité avec elle pendant un moment. Je me rappelle avoir partagé avec elle la première fois que j'avais embrassé une fille, mais comme officiellement, genre. C'est sûr que je l'avais fait avant, mais c'était la première fois que je partageais ça avec ma mère. Puis elle avait été dire ça à ma grand-mère. Puis là, je me suis rappelée d'un autre incident quand j'avais peut-être 12 ans. Elle a trouvé une lettre que j'ai écrite où que j'avouais des sentiments pour quelqu'un. Puis je me rappelle, on est assise dans ma chambre, on écoute la télé, ma mère est en train de lire une lettre, mais je sais pas que c'est ma lettre. Puis là, je la vois comme pleurer, je comprends pas. Je lui demande « qu'est-ce que t'as ?» Elle me dit « je suis vraiment déçue ». Là, elle me donne la lettre, je la lis. Je me rappelle, j'ai tellement paniqué, j'ai mis la lettre dans ma bouche, elle essayait de me l'enlever, puis je me rappelle, je me suis barrée dans la toilette, puis je l'ai flushée. Puis ça, ça a été le premier incident où j'étais comme « non, je peux pas faire ça ». T'sais, j'ai eu tellement peur, le fait qu'elle m'avait dit qu'elle était déçue, puis ma grand-mère était là, mais elle a rien dit. Après, comme j'avais 18-19 ans, la prochaine fois, j'embrasse une fille, j'en parle à ma mère, elle le dit à ma grand-mère. Mais ça, je sais pas jusqu'à ce que ma grand-mère, elle s'assoit avec moi, puis elle me dit « ben, ta mère, elle m'a dit telle, telle affaire », puis elle commence à pleurer. Mm. Puis là, moi, je suis comme 18-19 ans, puis je suis comme « OK ». Dans ce temps-là, je commençais à fréquenter le village, puis encore là, je voulais retourner dans le placard. Tu sais, c'est comme la honte, la déception d'avoir blessé les gens que j'aime. Ça m'a vraiment fait peur. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi d'aller à l'école à Sherbrooke, peut-être de déconnecter un peu du village, tu sais, d'arrêter d'explorer cette facette-là de ma vie, parce que justement, je voulais plus blesser les gens. Mais c'est sûr que ma grand-mère, malgré tout, plus tard, peut-être 10 ans plus tard, on a eu une conversation, puis elle me dit, surtout parce que pendant Star Academy, je me rappelle, ils avaient été votés pour moi, puis ils étaient au drugstore. Puis je m'en rappelle, je suis assise sur le stage, je vois ma grand-mère avec sa pancarte, genre qui dit « L'armée céleste est avec toi », puis elle est au drugstore, puis moi, je suis comme « qu'est-ce qui se passe? » Puis finalement, là, je suis confrontée encore une fois, qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, je me dis, mais ma grand-mère est pas folle. T'es dans le village, dans la place la plus emblématique du village gay, puis tu vas me dire que tu comprends pas ce que tu fais là. Puis là, j'ai compris qu'il y avait peut-être une ouverture de son côté. Puis ça a pris quand même des années, 10 ans plus tard, pour qu'elle me dise, tu sais, comme vraiment par rapport pendant le souper, moi, j'ai rien contre les gays, c'est juste que c'est pas ma génération. Puis là, j'ai compris, tu sais, que d'un côté ou un autre, les deux, on s'est beaucoup protégés. D'un côté, je voulais pas la blesser, je voulais pas la décevoir. Puis d'un autre côté, elle voulait pas non plus que je me sente comme emprisonnée, puis que je me sente seule. Puis j'ai amené des conjointes à la maison, tu sais, c'est sûr que c'était pas comme « Mamie, regarde, c'est ma conjointe, c'est plus comme ça fait 5 ans que tu me vois avec la même personne qui vient à la maison manger avec nous, il me semble que tu sais. » Puis dans son testament, finalement, elle a dit, surtout avec la personne qui s'occupait justement de faire la liquidation des biens, de me dire que tu sais, elle m'a aimée inconditionnellement. Donc moi, à ce moment-là, ça m'a beaucoup allégée. Ça m'a fait sentir que, tu sais, sans même nous l'être dit, sans qu'on se soit confrontés, on s'est toujours aimés malgré nos incompréhensions.
Oui. Je trouve que t'expliques bien le tourment intérieur qui peut nous habiter avant de faire son coming out. Puis les parents ont aussi un cheminement à faire. Ça explique très bien ce que notre génération a vécu. C'est très beau ce que tu racontes.
Merci. Écoute, c'est tellement vrai. Puis je pense que d'avoir passé à travers le processus moi-même de mon coming out, que j'ai compris, on est tous en coming out. On est tous dans une transition. On part tous d'idéologies qu'on n'a pas nécessairement construites, que la société nous a inculquées. Puis on doit essayer de, comme on dit, réapprendre à vivre avec une perspective différente. Donc, tu sais, c'est sûr que la transition, elle se fait pas seulement pour les personnes qui sortent du placard. C'est que les personnes aussi qui doivent accepter ça ont un processus à suivre.
Absolument. Puis aujourd'hui, on peut dire que tu es une pionnière comme femme DJ. En plus d'être internationale, tu as énormément voyagé. Tu as visité plus de 30 villes aux États-Unis. Tu t'es produite en direct à la télévision au US Open. Tu es allée en Allemagne, au Maroc, au Luxembourg, en Suisse, en France, en Chine, à Taïwan, en Thaïlande et à Dubaï. C'est vraiment exceptionnel. Puis tu as eu aussi le privilège d'assurer la première partie d'artistes de renommée internationale, dont Bob Sinclair, Ultra Naté, Travis Scott et Ruby Rose. Pendant toutes ces années, est-ce que c'était clair pour toi que tu reviendrais quand même vers l'écriture d'un nouvel album?
Non, c'est justement l'ironie. C'est que moi, j'étais tellement partie dans ma carrière de DJ chanteuse. Ça a l'air de bien se passer. J'évolue dans le milieu dance, un peu underground, un peu semi-commercial. Puis j'ai toujours voulu faire un album soul. Mais parce que ça se passait tellement bien dans ma carrière de DJ, j'ai pas eu le temps. Et la pandémie, ça a été vraiment le moment où t'arrêtes, t'as plus le choix, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis sentie dans une énergie où j'avais envie de créer. Donc, j'ai revisité des chansons que j'avais écrites il y a des années, presque 17-18 ans. Puis, je me suis retrouvée un peu à réimaginer mes racines dans mon quotidien. Comment mon enfance a impacté la personne que je suis devenue. Puis, ça a donné ad vitam parce que j'ai réalisé que, peu importe les circonstances, je retourne toujours à la musique. C'est toujours mon espace où ce que je me sens le mieux, que j'ai envie le plus d'explorer mes sentiments. Je me suis dit, je vais commencer avec le début de mon histoire. Donc, en parlant de la personne que je suis, la personne que j'ai été, mes sentiments les plus profonds, ça m'a tellement fait tomber en amour avec le côté soul, le côté genre où on est juste en conversation musicale. Donc oui, je vais continuer à évoluer justement en tant que DJ chanteuse, mais sous un autre nom maintenant. Donc Cindy Duperval, ça va continuer à être au Québec parce que les gens me connaissent déjà comme chanteuse DJ, mais Black Pearl, c'est BLKPRL, c'est mon nom de DJ chanteuse à l'international. On a un album qui va sortir, il va avoir vraiment tout ce que j'ai fait dans les années où j'ai voyagé, que j'ai fait le tour du monde. Là, on devient Black Pearl puis on présente cette facette-là de moi.
Ton nouvel album, Ad Vitam, est très personnel et j'ai lu cette phrase très belle sur ton site web. Elle nous y fait découvrir une nature qui lui est propre, dont la beauté des fleurs dépend de la force de leurs racines. Mm-hmm. Pourquoi ce titre et qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce nouvel album?
C'est drôle parce que l'album aurait pu aussi s'appeler À fleurs de peau. Mm. Ma troisième passion, parce que j'aime la musique, j'aime l'art culinaire, mais j'adore les plantes. Je suis tombée en amour avec les plantes parce que c'était la passion de ma grand-mère. Puis quand elle est décédée, mon héritage, mon plus bel héritage, ça a été les plantes, certaines qui sont plus vieilles que moi. Puis que même en voyageant, il y en a qui ont brisé, que j'ai remis dans l'eau. Et aujourd'hui, elles sont magnifiques. Puis ça, pendant surtout la pandémie, de regarder les plantes revivre m'a permis moi-même de revivre, de comprendre que même les blessures que je porte encore ne m'empêcheront pas de continuer à créer d'autres racines, créer d'autres souvenirs, puis de continuer à évoluer dans la personne que je suis. Donc, le parallèle de l'humain et la nature, il est tellement magnifique. Parce qu'on est justement structuré de la même façon. On a la chance, tant qu'on continue à respirer, de se réinventer, de renaître constamment. Puis c'est ça pour moi, les plantes, le fait que j'ai parlé à fleur de peau, c'est que même quand la plante, elle a perdu ses feuilles ou sa fleur, si la racine peut continuer à grandir ou si on continue à la nourrir, à en prendre soin, elle va refleurir. Donc, c'est où ce que je suis rendue aussi dans ma vie.
Tu es trilingue et c'est ton premier EP en français. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de le faire en français, celui-là?
Quand on parle de retourner à ses racines, c'est justement, moi, mes parents sont haïtiens. Ma langue maternelle, c'est le français. J'ai évolué dans le milieu anglophone parce que, tu sais, veux pas, le milieu francophone, malheureusement, pendant longtemps, je dirais les années 90-2000, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes noires. Donc, c'était difficile pour moi de trouver des repères, de faire ma place parce que j'avais l'impression, est-ce que les gens vont pouvoir connecter avec moi en tant que femme noire francophone? Okay. Ça me fait peur. Donc, j'ai évolué dans le milieu anglophone. Puis même quand je voyageais à travers le Québec, les gens parlaient en anglais. C'est comme, OK, si c'est comme ça qu'on m'accepte et qu'on me perçoit, je vais continuer comme ça. Mais à la base, moi, je suis francophone et je suis extrêmement fière de l'être. Puis je voulais, si j'allais rendre hommage à mes racines, le faire dans ma langue maternelle.
Mais c'est tout à ton honneur. C'est drôle, ça, que les gens prenaient pour acquis que tu étais anglophone.
Oui, mais c'est parce que c'est la référence qu'ils ont. Le fait, tu sais, on parle souvent du manque de visibilité des femmes noires ou des hommes noirs à la télé. C'est justement ça. Puis t'imagines les personnes queer, non-binaires, afro-descendantes, il y a zéro visibilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de se fondre dans la masse, dans ce qui a l'air d'être acceptable. Tu sais, on sort pas vraiment des sentiers battus parce qu'on a peur justement de se faire aliéner. Donc, je me suis dit, ben, si c'est plus facile pour moi que les gens me perçoivent en tant que chanteuse anglophone, ben, c'est ce que je fais. Puis, ça peut être facile, mais ça m'a tellement ouvert de portes. Ouais. C'est justement, je me suis dit, ben, j'ai pris tout ce que ça m'a rapporté, puis je l'ai investi pour créer ma maison de disque, mon studio d'enregistrement, devenir indépendante. Puis aujourd'hui, j'ai tous les outils pour le faire moi-même. S'il n'y a pas de place ou de visibilité pour la femme noire dans le milieu francophone, ben là, j'ai les reins assez solides pour faire ma place.
Absolument. Tu as travaillé avec Cissy Houston, qui est nulle autre que la mère de Whitney Houston. Comment c'est arrivé dans ta vie?
J'ai travaillé avec Cissy Houston pour mon deuxième album gospel. J'enregistrais au New Jersey quand j'avais 14 ans. Puis ça a été, c'est une femme d'une énergie intense, d'une passion intense. C'est intimidant, mais ça a été vraiment un tournant au niveau de l'apprentissage. Ça a été très discipliné de voir sa façon de fonctionner. La première chanson avec laquelle j'ai travaillé avec elle, c'était elle et un chanteur américain qui s'appelle Ali Hudson. Puis, elle avait fait des back vocals dessus. C'était la première fois que je me retrouvais à savoir note par note qu'est-ce que j'allais chanter. Je me rappelle, on dormait pas. C'était 24 heures, des fois, de session studio. Dans le temps qu'on enregistrait sur des tapes, puis il fallait les couper s'il y avait des erreurs. Donc, ça prenait du temps. C'était intense. Ma grand-mère au studio avec moi qui me faisait à manger puis s'assurait que j'étais correcte. Mais ça a été la première fois où ce que j'ai compris l'importance de la discipline dans le métier.
Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Whitney?
Non, malheureusement. On s'est croisés brièvement, mais j'ai passé plus de temps avec ses frères. J'ai passé du temps avec son père, avec sa mère aussi. Mais Whitney, dans ce temps-là, c'était justement quand elle commençait à avoir beaucoup de problèmes avec la dépendance. Elle rentrait dans des centres de réhabilitation. Donc, justement, c'est ce qui a fait en sorte que le projet n'a pas pu aboutir. Il n'est pas sorti parce que la maison de disque, elle a dû faire faillite. Mais en même temps, ça a tellement changé ma vie. Je pense que c'était la première fois où je voyais l'arrière-scène. C'est pas juste qu'on voit à la télé et puis le glamour. C'est difficile. C'est surtout difficile. Moi, j'étais pas connue, j'ai trouvé ça difficile. Mais imaginez une icône comme Whitney qui passe à travers cette aventure. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, je veux lire le livre que Robin, son ancienne meilleure amie, a écrit. Justement, est-ce que c'était vraiment une question de coming out? Est-ce qu'il y avait tout ce côté-là? Est-ce qu'elle était dans le placard? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu avoir joué sur sa dépendance? Donc, c'est encore une fois des choses qui me fascinent. J'ai ma propre expérience, mais j'aime lire. Qu'est-ce qui peut avoir eu de l'impact sur la personne à un point tel? Ah, c'est fascinant.
On va écouter la chanson « Eau », qui est le premier extrait de ton EP Ad Vitam, qui s'est retrouvé en première position du top 20 francophone sur CKAJ, une radio du Saguenay, pour 2 semaines consécutives. Félicitations.
Merci.
Puis ça doit être dans le top 5 encore en ce moment.
Il est encore numéro 1 cette semaine.
Génial.
Je suis tellement heureuse. Tu sais, moi, je me suis dit, si l'album sort et il y a une personne qui l'écoute, ça va faire tellement mon bonheur. C'est tellement fou parce que je sais à quel point mon équipe et moi, on en a bavé, puis on a vraiment passé à travers des choses difficiles. Combien de fois j'ai appelé mon gérant en pleurant, puis j'étais comme, moi, j'arrête. Puis à chaque fois, il était comme, mais non, on n'a pas fait tout ça pour rien, tu sais. Puis d'avoir, tu sais, le Saguenay en plus.
Oui.
Je me dis, wow!
C'est génial!
Ah, c'est malade. Donc, oui, c'est la troisième semaine en position numéro 1.
Super. Est-ce que tu veux nous la présenter, la chanson « Où? »
Oh, c'est une chanson que j'ai écrite il y a une dizaine d'années, encore plus, qui parle de, j'avoue, des sentiments que j'ai, pas à la personne, mais à moi-même. C'est un peu ce que je me dis dans ma tête. Donc, un regard et on se parle sans rien se dire. Un je ne sais quoi que je ne saurais vraiment décrire. C'est vraiment la fille qui est encore un peu dans le placard, mais qui sait qu'est-ce qu'elle vit. C'est valide, puis c'est intense, puis qu'elle aime ça. Puis tout ce qu'elle trouve à dire, ben c'est haut.
On l'écoute.
Se dire, je ne sais quoi que je ne saurais vraiment décrire. Une première fois qu'il ne demande qu'à se reproduire. Ce qui suivra, je me meurs de le découvrir. Oh.
Nous sommes de retour avec Sandy Duperval. La chanson « Oh » qu'on vient d'entendre fait également l'objet d'un vidéoclip assumé où tu mets la diversité sexuelle de l'avant en exposant le début d'une idylle entre toi et une autre femme. Est-ce que c'est libérateur pour toi de te présenter dans ta vérité?
Oui. Ah, tellement. Je fais une comparaison vraiment banale, mais c'est comme quand tu sais que t'as... Moi, je suis à l'école présentement, je sais que j'ai des travaux, mais tant que je fais pas le ménage chez moi, que tout n'est pas bien placé, je peux pas me concentrer. Mais ça a été la même chose avec mon processus de coming out. J'ai comme l'impression de pas avoir commencé à grandir avant d'être sortie du placard. Puis de pouvoir enfin me présenter sous toute mon authenticité, toute ma vérité. Là, je me sens vraiment vivante. Je me sens complète. J'ai envie de continuer à évoluer, émancipée. J'ai plus envie de faire semblant. Puis je veux que les gens m'aiment pour qui je suis. Mm-hmm. Pas pour qui je prétends être. Donc, d'avoir fait la vidéo de cette façon-là, de vraiment présenter. Tu sais, je veux pas 10 millions de fans. J'en veux 10, puis je veux qu'ils m'aiment comme je suis.
Exactement.
Donc, c'est ça. C'est vraiment le but de toute cette aventure-là.
Je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire que pour les communautés culturelles LGBTQ+, c'est parfois plus difficile de faire son coming out à cause de la religion qui est très forte.
Mm-hmm.
Toi, tu as beaucoup chanté dans les églises plus jeune. Comment as-tu vécu cette partie de ta vie? Puis est-ce que tu es restée en contact avec les gens que tu as rencontrés quand tu chantais à l'église?
Honnêtement, comment je peux dire ça? Il y a du bon et du mauvais. Je pense que ça m'a donné de belles valeurs. Je pense que souvent, quand je parle de religion, je pense que ce que je dis, c'est que à la base, l'intention, elle est bonne. C'est de rassembler, de rester connecté à l'amour. On parle beaucoup d'amour inconditionnel. Par contre, en action, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce qu'on met une pression énorme sur l'humain qui ne sera jamais parfait. Puis on lui dit que sous toutes ses facettes, en fait, de rejeter le mauvais puis d'essayer de juste faire du bon quand... C'est qui détermine le bon et le mauvais?
C'est ça.
Donc, il y a beaucoup de discours contradictoires, mais à la base, le message d'amour, c'est quelque chose qui est resté avec moi. Puis c'est justement dans cette optique-là que je me suis dit, ben, tu sais, si l'amour est inconditionnel, je devrais être capable de m'aimer aussi inconditionnellement. Donc, ça m'a donné quand même une bonne base. Mais en pratique, encore une fois, c'est contradictoire parce que la minute que j'ai commencé à faire mon coming out, il y a des gens qui ont arrêté de me parler. Il y a des gens, justement, que quand ils me voient, ils vont changer de côté de rue. Il y a des gens qui ils vont m'envoyer des messages de haine qui me disent que ben t'es possédé puis que tu sais que c'est le diable qui est en toi. Puis je me dis ben waouh, il est parti où l'amour inconditionnel, tu sais. Mm-hmm. Puis d'un autre côté, moi la foi, j'y crois. Sans nécessairement être religieuse, je crois que c'est important d'avoir un repère, de se trouver une raison. Moi, dans mon cas, je me dis que ma raison, c'est d'essayer de créer des opportunités pour les autres. Je crois que la chaîne de la vie, c'est l'humain. On est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Et comment je peux laisser un héritage ou des repères ou des outils pour d'autres personnes? Donc, c'est pour ça que je raconte mon histoire. C'est pour que les gens comme moi qui... mon adolescence a été difficile parce que je naviguais entre la personne que je voulais être, la personne que j'essayais de ne pas être et la personne que j'étais. Donc, ça a été tumultueux. Puis je veux aujourd'hui que les jeunes ou même les gens qui ont mon âge ou les plus vieux, qu'ils sachent qu'il y a des issues, il y a des espaces, il y a des organisations, il y a des gens qui vivent un peu la même chose puis qu'ils ne sont pas obligés de vivre tout ça tout seul.
Exactement. C'est là que ton travail prend tout son sens aussi.
Oui, absolument. Tu sais, moi, c'est drôle parce que oui, j'ai vécu des choses qui m'ont blessée, mais quand je vais partir de ce monde, je pars avec rien, même pas mes blessures. Donc, ce qui m'importe vraiment, c'est qu'est-ce que je laisse puis comment je vis ma vie.
En 2012, j'étais chargée de projet pour sensibiliser les communautés culturelles à l'homosexualité pour la Fondation Émergence. Puis il y avait une intervenante qui était extraordinaire à la Maison d'Haïti, qui était très consciente de l'homophobie qui régnait dans l'organisme. Puis elle m'invitait tout le temps à faire des conférences. Puis j'ai vu que tu as signé la musique officielle au Festival Afro-Urbain 2021, qui est organisé par la Maison d'Haïti, qui célèbre l'art et la culture des Afro-descendants. Aujourd'hui, ça doit te faire chaud au cœur d'être aussi bien acceptée par la communauté haïtienne. Alors que tu assumes entièrement ton homosexualité, ils continuent à t'inviter quand même.
Oui, oui. Honnêtement, tu sais, des fois même moi, je suis là puis je suis encore très surprise, mais agréablement surprise. J'ai eu l'occasion d'en parler avant. Tu sais, je trouve que la communauté haïtienne, c'est une communauté extrêmement résiliente. Une communauté ouverte, parce que honnêtement, même ma grand-mère, elle avait des amis de toutes les communautés. T'sais, on mangeait chez des Italiens, on mangeait chez des Québécois, on n'a jamais eu peur de l'autre. Mm-hmm. Donc, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les valeurs de la communauté haïtienne, malgré l'homophobie qui est encore extrêmement présente. Je salue l'ouverture d'esprit qu'il y a, parce que malgré l'incompréhension, le fait que, tu sais, c'est encore tabou, les gens comprennent pas nécessairement, mais ils voient l'humain. Moi, les gens avec qui j'ai reconnecté, ça n'a pas toujours été comme... Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Il y a des gens qui ont été comme, on veut comprendre, toi, comment tu vas, comment tu vis ça, puis comment on peut te soutenir. Puis ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça me touche encore. Et c'est pour ça aussi que quand j'écris notre histoire, c'est important pour moi d'avoir une partie, justement, qui rendait hommage à la culture haïtienne, parce que ça fait partie de moi. Puis quand j'ai fait mon coming out comme lesbienne, j'ai pas arrêté d'être haïtienne.
Non, c'est ça.
Donc, c'est justement, je voulais pas laisser de côté, je veux pas sacrifier l'un pour l'autre. Je veux marier l'un et l'autre. Puis quand j'ai l'occasion de justement faire des événements comme Afro-Urbain, ou cette année j'ai fait le festival Afro-Monde, où ce que justement dans les communautés africaines c'est encore très tabou, puis que j'ai l'occasion de connecter sur une base humaine avec les gens pour qu'ils voient que à travers même l'incompréhension, il y a la personne encore. Puis que c'est ça, il faut rester concentré là-dessus. Je suis humaine comme tout le monde. Je suis différente parce que je me moule pas nécessairement dans le standard de société. Mais les gens voient que je suis comme eux. Et ça ouvre la conversation. Puis ça permet aussi d'évoluer, d'avancer ensemble.
C'est ça, exactement.
Mais c'est encore une fois, même moi, quand je faisais mon coming out, c'est justement toutes ces choses-là que j'ai appris de la Bible qui supposément dit que Dieu, il haït l'homosexualité. Pourtant, c'est lui qui m'a créé. Tu sais, donc je me dis, c'est facile de se fier à un livre qui a été écrit par un autre humain.
Ouais.
Mais au-delà de la perception ou d'un livre, ou qu'est-ce que toi, tu ressens? C'est souvent ce que je demande. Oui, tu peux me dire que la Bible dit ci, puis si tu peux me dire que ton pasteur, il t'a dit ça, mais toi, quand tu me vois, qu'est-ce que toi, tu ressens? Puis si tu sens que, OK, ben je sais pas, je t'aime pas mon énergie ou quoi que ce soit, c'est valide. Puis t'es pas obligé, mais je dis souvent, ce que je suis, c'est pas supposé avoir un impact sur toi. Qui je suis, même quand tu le comprends pas, c'est pas supposé te perturber. Si toi, t'es bien dans la personne que t'es, dans tes valeurs, tes croyances, ben tu peux continuer à faire ce que t'as à faire. Mais moi aussi, j'ai le droit. Mon existence est aussi valide que la tienne.
Ton coming out s'est fait à petits pas, mais j'ai l'impression que maintenant, il n'y a rien qui peut te faire retourner en arrière.
Oh non!
Est-ce que tu pensais un jour devenir la première femme noire, lesbienne, porte-parole de Fierté Montréal?
Oh non! Comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment les plus belles choses de ma vie, les événements les plus marquants de façon positive ont été celles dont j'aurais jamais rêvé. J'ai fait du chemin, puis je me suis rendu compte que je vaux la peine d'avoir fait cet investissement-là, malgré les compromis, les sacrifices, les choses négatives qui se sont passées, parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir le courage, d'avoir la connaissance, de m'impliquer, puis de continuer aussi, parce que je sais pas tout. Il y a tellement de facettes, de choses que j'aimerais explorer, puis d'avoir la chance d'être où ce que je suis aujourd'hui, à créer des ponts, je me dis, ben moi aussi, je veux faire partie de la solution. C'est que ensemble, on va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Puis j'ai envie d'aller plus loin.
Il y a un lien à faire aussi entre les enjeux touchant la communauté noire et la communauté LGBTQ+. Quelle est ta vision des choses à ce sujet-là?
C'est une excellente question. Avant de faire mon coming out, mes plus gros défis de société, c'était le racisme. Et bien sûr, la discrimination faite aux femmes. Donc, la misogynie, c'est, ça a été... J'avais pas réalisé à quel point, surtout dans le milieu des DJ, que c'est un problème. Et donc, pour moi, j'avais déjà eu des outils par rapport à comment naviguer la société en tant que femme, parce que j'ai grandi avec des femmes. Et j'avais des outils comment naviguer dans cette société où ce que le système, malheureusement, le système, on parle de racisme systémique, c'est justement, c'est le système, il a été bâti sur le concept de le noir est un esclave, le noir est un sous-humain. Comment faire pour naviguer? Comment faire pour être valorisé dans une société qui, à la base, nous dit qu'en tant que femme, en tant que femme noire, on est déjà en position de désavantage. Ça m'a déjà donné un peu comme, je dirais, la résilience d'aller plus loin. Parce que là, je sais que la société, même s'il y a du bon, elle n'a pas toujours raison. Le système ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, déjà, de pouvoir avoir une perspective qui me permet de questionner le système, ça m'a permis, dans ma lutte contre l'homophobie, de savoir que c'est la personne qui pense que les personnes des communautés LGBTQ+, ils ont une maladie ou il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je peux, avec la conviction, le chapeau de la personne qui a passé sa vie à combattre le racisme, dire, mais moi, je sais que tu as tort et voici comment je vais te le démontrer. Donc, c'est sûr que j'utilise un peu les mêmes outils, puis je dis souvent, la personne que je suis ne se divise pas. Quand je suis dans un milieu LGBTQ+, je suis pas moins noire. Et quand j'arrive dans un milieu noir, je suis pas moins lesbienne. Donc, c'est toujours, quand je parle aux gens, je leur dis, essayez de comprendre que les défis pour les gens qui font partie des intersectionnalités sont nombreux parce que justement, ils peuvent pas changer d'identité tout dépendamment de l'environnement. Donc, nous, on est obligés d'arriver là de façon complète et d'être assez ancrés pour démontrer que nos convictions sont valides, que la personne qu'on est, elle a de la valeur, puis que je suis pas moins lesbienne parce que je suis noire, je suis pas moins noire parce que je suis lesbienne. Malgré les défis, malgré le manque de ressources, ça m'empêchera pas d'arriver à mes objectifs. Et tout ce que je demande, c'est qu'on commence la conversation puis qu'on essaie de trouver des solutions parce que tout problème a des solutions. Comment on fait pour aller briser les idéologies biaisées?
C'est l'éducation. Donc,
c'est l'éducation, exactement. Mais c'est de se présenter, c'est de parler aussi de ses expériences. Je le dis souvent, ayez au moins envie d'écouter. Parce que c'est comme ça qu'on commence à comprendre certaines choses. L'envie d'écouter, l'envie de faire partie de la solution. Comment on met des actions sur nos mots? Comment on change les mots pour pouvoir justement être plus inclusif? Donc, ça fait partie justement de quand je me retrouve dans différents milieux, de la façon que je partage ces sujets-là.
On va écouter ta chanson « Runaway » et j'aimerais que tu nous la présentes, s'il te plaît.
Ah, ben là, on parle de « Runaway », justement. Quand on parle de milieux où on a de la difficulté à être soi-même, à trouver une certaine émancipation, moi, « Runaway », ça a été mon « Runaway ». C'est avec cette chanson-là que j'ai mis mon pied à terre et j'ai dit « Je veux vivre ce que je veux vivre. Si je me sens pas bien où je suis, je préfère partir et me trouver un espace, me créer un espace où j'ai le droit d'exister dans ma plénitude. »
Belong was never part of my plans.
vibes, good vibes, good vibes only. The best things in life are free. Don't you tell me what I can do. I won't change my colors for you. I won't change my colors. I won't change my colors. I won't change my colors for you. I won't change my colors. I won't change my colors. I won't change my colors.
Nous sommes de retour avec Sandy Duperval. En terminant, qu'est-ce que ça représente pour toi le mois de l'histoire des Noirs?
J'adore. J'en parlais avec une cliente qui est devenue une bonne amie. Je trouve que c'est important. C'est important pour du côté des personnes afrodescendantes de comprendre l'importance et de connaître l'histoire parce que malheureusement, dans notre système d'éducation, on ne parle pas vraiment de l'histoire des Noirs. Puis quand on parle de l'histoire des Noirs, on parle soit des 400 ans d'esclavage, oui. Mais on ne parle pas des autres règnes d'avant. On ne parle pas des gens aujourd'hui qui ont un impact sur nos communautés. Puis je pense que le mois de l'histoire des Noirs vient justement nous éduquer. Il nous donne des repères. Il continue à nous donner envie. En fait, c'est cette fierté-là de savoir qu'on a tellement de potentiel. Puis on avance malgré tout, envers et contre tous. Mmh. Puis ce mois-là, même si c'est le plus court, il nous rassemble. Il permet aussi d'ouvrir des conversations, de célébrer et de partager tout cet amour, toute cette richesse-là historique du passé, du présent et de ce qu'on aimerait pour le futur. Je pense et j'espère, par contre, qu'on va continuer à célébrer ça après le mois de l'histoire des Noirs parce que au fond, je disais à ma cliente qui est québécoise, moi, le 1er mars, je suis encore noire.
Oui.
Donc, je vais continuer à partager mon histoire, mais je suis vraiment heureuse qu'on prenne le temps de souligner qu'il y a encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, mais qu'on est ensemble puis qu'on continue à s'éduquer.
Et sur ton EP, Ad Vitam, on peut aussi trouver cette très belle chanson qui s'intitule Notre histoire. Qu'est-ce qui t'a inspirée pour écrire ce texte-là?
Notre histoire, c'est un hommage à ma grand-mère. La première partie de Notre histoire, quand j'ai produit la chanson, je l'ai mis à 67 BPM parce que c'est l'autobus.
Hello, it's me, E. Yeah, that's right. This is Question Mark of Question Mark and the Mysterians, and you are listening to CKUT.
Yeah, all night long.
What up, y'all? It's your girl, Simply Sita, coming to you from West Haven Community Association.
Join us Friday, February 23rd for a special edition for Black History Month, West Haven's Black Talent Showcase, with performances, vendors, and food. All going down at
7405
Harley and NDG. Tickets only $5, $10 at the door. Showcasing our black talent.
We got Pat Dillon with some storytelling.
Performances by Natasha Marie, Preach,
Tokyo, Shawnee and Snake,
Widget, Kid Crooks, and the West Haven Teens. Poetry by Tash, Black Gold and Zibs. An Afro-Caribbean dance with West Can. Your host, me, Ziplocks, and my girl, Sita.
So come through.
7405 Harley in NDG. Tickets at www.westhavenrecreation.org. West Haven's Black Talent Showcase, Friday, February 23rd, starting at 7 p.m. See you there.
Fade, Sergio Calypso's Tour 2024. Live at Bell Center, Saturday, June 1st. Get tickets now at evenco.ca.
P de ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée, sans rire de lui.